scène des grains de pavots sur les pavés de la Namouve. Je t'aime et je crains de m'égarer.
L'ours et la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Alors cette semaine, c'est un invité assez particulier que je vous propose de rencontrer, quelqu'un que je n'ai pas vu depuis plus de 25 ans, mais c'est une des premières personnes que j'avais rencontrées quand j'ai commencé à me poser des questions sur l'écologie. Il n'était pas encore question d'avoir une émission de radio, c'est venu peu de temps après, mais juste après. Et c'est une personne qui m'a accueilli dans son jardin, qui m'a fait partager sa passion. J'ai acheté quelques plantes. Il s'agit de Serge Rieudebatte. Bonjour.
Bonjour.
Alors Serge, on s'est connu à une époque donc, où tu avais un jardin botanique en montagne, où tu avais des plantes des montagnes du monde entier, tu avais une collection assez folle. En deux mots, rappelle-nous cette aventure qui n'est plus la tienne maintenant.
Ben, moi j'étais horticulteur botaniste donc, et puis bon, j'avais fait un peu le tour de la question et comme j'étais toujours en montagne, donc, à vadrouiller, randonnée, etc. Donc, et à regarder les plantes. Donc. J'ai fait une ébauche d'un petit projet de jardin botanique donc, que le Parc National des Pyrénées a assez vite récupéré. Quoi. On s'est rencontrés et finalement, ils m'ont aidé à concrétiser un jardin botanique donc, qui s'est trouvé, puisqu'il n'existe plus actuellement, donc, sur les pentes du Tourmalet, côté Barenge, au pont de la Gobie. Quoi. Et donc, le but de ce jardin, en fait, c'était de présenter la flore des Pyrénées, puisque sur la fin, il y avait 2500 espèces, mais aussi il y avait des plantes un peu du monde entier pour montrer un peu les comparaisons dans certains genres, donc, de ce qui se trouvait ailleurs, pardon, et dans les Pyrénées. Quoi. Dans ce jardin, ça a duré 17 ans et j'ai eu quelques soucis de santé, donc j'ai dû m'en défaire et actuellement, il n'existe plus puisque la personne qui a repris ce jardin n'a pas su forcément le gérer correctement. Quoi.
Problème de santé, on change de vie, mais il y a une chose qui est restée chez toi, c'est quand même cette passion du vivant végétal en particulier. Tu es parti sur les espèces anciennes, mais sur les fruitiers ensuite.
Oui, tout à fait. C'est pas le fruit du hasard, puisque dans mon premier métier, j'étais horticulteur botaniste et on faisait un peu d'arbres fruitiers qu'on vendait sur des marchés et sur la pépinière. Donc. Mais je connaissais une personne donc, au CPE, Centre d'initiation permanente à l'environnement. Donc.
Il y en a un petit peu dans toutes les villes et il y en a un ici qui était d'ailleurs, je crois, assez historique à Bagnères-de-Bigorre.
Voilà, tout à fait à Bagnères-de-Bigorre. Donc, et donc, ce CPE venait souvent au jardin et j'avais lié d'amitié donc, avec une personne en particulier qui s'appelle Béatrice Morrison. Et cette personne, donc, en fait, elle était chargée au Conservatoire botanique pyrénéen, donc, à travers Fruits de terroir, de faire un inventaire sur les fruitiers, les vergers sur les Hautes-Pyrénées. Quoi.
Pas les arboriculteurs qui y ont planté de la golden à l'hectare.
Non, contrairement. C'est les vergers historiques, les vergers, les casalaires, comme on appelle souvent, hein, dans les vieilles fermes. Non parce qu'en fait, c'est un patrimoine qui existe, donc, et ce patrimoine donc, disparaissait à vitesse grand V, quoi. Et cette personne, donc, Béatrice Morrison, m'a contacté quoi, pour savoir si j'étais intéressé pour l'aider, pour l'épauler, puisque j'avais une connaissance au niveau des fruitiers. Quoi. Finalement, moi j'ai vraiment mis le pied à l'étrier. On a fait quelques inventaires dans certains lieux. Moi je suis allé encore plus loin, donc Moi, c'était bénévolement, hein, c'était de l'investissement donc, de passion, quoi. En fait, j'ai vadrouillé sur une grande partie des Pyrénées, de l'Ariège jusqu'au Pays Basque, donc retrouver des variétés à travers des vergers, des villages, des personnes, des connaissances, des associations, quoi. Et le but, en fait, de tout ça, c'était de conserver ces variétés anciennes qui étaient un patrimoine, qui est un patrimoine, quoi, et qui disparaissaient puisque beaucoup de ces arbres fruitiers étaient arrachés, donc avec l'agriculture moderne, donc ça gêne, etc. C'était plus rentable pour eux, quoi.
Et alors, quel est l'intérêt de sauver des variétés anciennes? En quoi c'est un patrimoine? C'est un patrimoine génétique? C'est un patrimoine ethnologique? C'est un patrimoine gustatif?
C'est un peu tout. Il y a un lien affectif des gens, donc un aspect paysager. Aussi. Un gustatif aussi, parce qu'il faut savoir, monsieur tout le monde va acheter sa pomme, par exemple, donc, au supermarché, ces variétés modernes, quoi. Mais ces variétés anciennes, donc, elles ont un intérêt gustatif, donc, parce qu'elles ont des goûts différents, des conservations différentes, mais aussi, il faut savoir que ces pommes anciennes, donc, si vous mangez une pomme, une de ces pommes-là, donc, il va falloir manger presque un kilo de ces pommes modernes, donc, hein, que vous achetez au supermarché, qui sont gorgées d'eau, etc., donc, pour avoir l'équivalent en vitamine C. Elles vont se conserver sans être dans des chambres froides ou vers certains produits aussi. Non, elles ont surtout un intérêt gustatif, visuel. Il y a une telle diversité. D'ailleurs, en France, il y a beaucoup de conservatoires dans différentes régions qui conservent ces variétés anciennes. Il n'y a pas que nous ici, que dans les Pyrénées, quoi.
En fait, chacun est acteur. Il n'y a pas de politique, on va dire, d'État, gouvernementale, pour la conservation de ce patrimoine génétique. Il y a aussi un intérêt face aux maladies, je suppose. Quand je te parlais de génétique, c'était un peu ça. C'est qu'ils vont, évoluer différemment. Un petit peu aussi. Donc tout l'intérêt, on va dire, de ces groupes qui vont se constituer, de chacun de planter des choses anciennes chez lui.
Oui, tout à fait. Hormis la diversité, mais on voit actuellement les grandes pépinières qui créent des variétés modernes, donc, hein, et bien, ils bloquent un peu parce que quand on fait de l'arboriculture moderne, et bien, il y a des maladies, il faut traiter encore plus. Il y a des problèmes des porte-greffes, etc. Donc, des problèmes de fructification aussi. Bon, on le voit avec le changement climatique qui se passe. Donc. Et en fait, donc, actuellement, ils sont en train de revenir sur ces variétés anciennes, quoi. Voilà. Parce que derrière, il y a une génétique, donc, et ils sont en train de retravailler sur cette génétique, quoi. Donc, tout l'intérêt de garder aussi ces variétés dites anciennes, quoi.
La pomme ne vient pas d'ici, elle a une région d'origine, hein, comme les trois quarts des arbres et beaucoup de plantes qui nous entourent, elles ne sont pas indigènes à la France, endogènes à la France, elles viennent d'ailleurs, et la pomme, elle vient, tu m'as dit, du Kazakhstan. Et donc cette pomme, elle est plus résistante que ce qu'on a fait après, elle a un intérêt génétique.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de sociétés qui travaillent sur ces pommes qui viennent du Kazakhstan, puisque chaque produit alimentaire qu'on consomme tous les jours a un berceau de race, quoi. Le maïs, le haricot, par exemple, ça vient du Mexique, quoi. Et bien, la pomme vient, le berceau de race des pommes vient du Kazakhstan. Alors certes, elle ne ressemble pas tout à fait à nos pommes qu'on a nous ici, les arbres non plus, puisqu'ils peuvent arriver à faire 80 cm de diamètre et une envergure de 30 mètres, quoi. Beaucoup de pommes de la région du Kazakhstan là-bas peuvent être consommées telles que c'est pas l'homme qui les a créées, c'est au fil des millénaires et c'est la nature qui a créé tout ça, dont un animal en particulier, l'ours. Parce que c'est un fin gourmet, il est comme nous, il adore les pommes. Et en consommant les pommes, il a éparpillé les pépins. Et avec les pollinisations entre divers arbres de ces pommiers, il a créé des variétés, quoi. Donc ce n'est pas l'homme qui a créé toutes ces variétés, mais il y a plus de 2000, 3000 variétés de pommes là-bas au Kazakhstan, quoi. Donc, et c'est l'ours qui les a créées. À savoir que nos pommes anciennes ont une origine au Kazakhstan. Tout simplement parce que les Grecs, à travers Alexandre le Grand, est allé en Orient. Ils ont ramené de ces pommes du Kazakhstan. Ce sont les Grecs qui sont à l'origine de la greffe. Parce que pour garder une variété à l'origine, telle qu'elle est, non. Si pour nous ici, par exemple, on a une pomme de Pouzanque, si on veut la multiplier, il faut la greffer. Si on la sème, on va créer des clones, quoi. Dans tout l'intérêt de la greffe, quoi. Donc les Romains aussi ont récupéré ce savoir-faire des Grecs. C'est arrivé ici, ben, en Gaule, donc, hein, au fur et à mesure donc, des épopées. Dans le monde entier, il y a une quarantaine de pommes botaniques. Alors, c'est des petites pommes qui sont très acides, qui sont insipides, qui sont astringentes, donc. Et ici, donc, en Europe, on a une pomme qui s'appelle la Silvestri. Et on pensait que toute une pomme ancienne avait son origine. Donc, et en fait, elle vient de la Silvestri, donc, qui est du Kazakhstan, quoi, en fait.
Et l'intérêt, là aussi, autant il est important de planter et aussi de s'entraider à greffer, à donner des bouts de ses greffons aux autres, à apprendre à greffer, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'essentiel pour sauver donc, les races anciennes.
Ben oui, si on veut garder ces variétés dites anciennes, non, que nos aïeux donc, ont conservées, ont greffées, donc, ben, il faut aussi transmettre, c'est mon but. Donc, dans un premier temps, certes, j'ai prospecté, je conserve beaucoup de variétés pommes et autres, eh bien, en fruits, quoi. Mais actuellement, je rediffuse tout ça parce que c'est un patrimoine dont je le détiens. C'est pas un patrimoine qui m'appartient, non. Et ben, à travers des initiations au greffage, des bourses au greffon, ce genre de choses, non. Ou actuellement aussi, hein, donc je vais dans deux pépinières, donc aller greffer pour diffuser ces variétés que je détiens, quoi. Comme ça, ben, le particulier peut se procurer ce genre de végétal et ces variétés anciennes, quoi.
Oh,
Alors nous sommes de retour avec Serge Rieudebat, donc pour nous parler de ces espèces anciennes, de l'intérêt de les conserver, de l'intérêt de les greffer. On est allé un petit peu vite dans la première partie d'émission. En fait, on a commencé à parler de ce travail que tu as fait avec le Conservatoire botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées et avec le CPIE, donc Béatrice Morisson, dont tu as parlé, étant entre les deux structures à l'époque. Mais en fait, voilà, vous êtes allé chercher, donc il y a eu cette démarche d'aller chercher un petit peu toutes les espèces qui restaient dans des vergers anciens, mais on n'a pas vu qu'est-ce que vous en avez fait en fait. Est-ce que le but c'était quoi? C'était de créer un verger, c'était simplement de les répertorier, de les diffuser, c'était quoi votre projet?
À l'origine, donc, pour Béatrice, donc, c'était donc, de faire un inventaire, donc, puisqu'elle était détachée donc, au conservatoire, donc avec fruits de terroir. Quoi. La suite, donc, c'était donc, il y avait un inventaire à faire, donc, mais moi j'ai débordé, puisque elle n'avait qu'un accès, un intérêt d'inventaire que sur les Hautes-Pyrénées. Quoi. Moi je suis allé plus loin. Non. Donc l'intérêt, c'était d'aller les sauvegarder, puisque ces arbres, beaucoup de ces arbres qu'on a référencés n'existent plus. Actuellement, ils ont été conservés, on devait trouver un lieu, et en fait ce lieu on ne l'a jamais trouvé, et vu que j'ai une propriété assez grande, et bien tout a été greffé chez moi, donc en fait c'est tout est conservé sur ma propriété, quoi. Ces variétés, eh bien, on les a fait pousser, et puis on a fait pas mal d'animations, c'est-à-dire d'initiation au greffage, du greffage, des bons sauts greffons, donc pour initier les gens et pour les intéresser à ce patrimoine qui existait. Et il y avait une demande aussi, il y avait très peu à l'époque, il y a une quinzaine d'années, il y avait très peu de pépinières qui diffusaient ces variétés.
Ils avaient le droit, parce qu'il y avait des variétés peut-être qui n'étaient pas inscrites au catalogue, comme ça, on avait le droit.
Tout à fait. Donc, toutes ces variétés anciennes, elles sont libres de droit.
Mais on ne peut pas, par contre, les commercialiser, les pommes, peut-être.
Alors, à petite échelle, oui, mais si c'est à échelle, disons, industrielle ou donc à une certaine grandeur, on est dans un monde où tout est normalisé, donc ces variétés doivent être inscrites à un certain catalogue pour pouvoir les commercialiser à grande échelle. Quoi.
Donc, chers amis, c'est un acte de résistance. Les agriculteurs ne pourront pas faire votre boulot, les gros agriculteurs ne pourront pas faire vos boulots à sauver ces espèces anciennes.
Si vous voulez, par exemple, conserver une variété de blé, eh bien, vous avez droit de donner à votre voisin 5 kilos. C'est tout à fait légal. Voilà. Et pour votre voisin, il va conserver cette variété, il va la semer, il va la diffuser, ou il va en faire du blé, etc. Voilà.
Le greffage, on en a parlé, donc c'est un acte essentiel, c'est-à-dire un pommier, si on le laisse, on va dire, si on prend un pépin, qu'on arrive à le faire germer, ce qui n'est pas très facile, je crois, qu'on le laisse pousser comme ça, ça donne quoi?
Alors, on peut semer, on va manger une pomme qui nous plaît, on va la semer, mais à savoir que vous n'aurez pas le même résultat. Non, vous allez avoir une grande variation de fruits en couleur, en forme et en taille. Quoi.
À partir de la même pomme, selon avec les pépins de la même pomme, on aura plusieurs pommiers différents.
Tout à fait, tout à fait. En fait, on va créer des variétés, on va créer des clones. Quoi. Si on veut, donc ça c'est du semis du hasard. Quoi. Donc, et là, on va sélectionner. C'est ce que font des sélectionneurs, des personnes qui sélectionnent et qui veulent créer des variétés. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'est un peu moderne hein, maintenant. Par exemple, vous avez une pomme. Allez, on va nommer un nom ici. La pomme de Pouzac, ici, sur les Hautes-Pyrénées, à côté de Bagnères-de-Bigorre. Si vous voulez garder cette pomme, non, parce qu'elle a un intérêt gustatif, conservation, donc il va falloir la greffer. Si vous la semez, vous allez créer des clones, dont diverses variétés. Quoi. Mais si on veut quelque chose à l'identique, il va falloir la greffer.
C'est-à-dire on va pouvoir garder la tige qui aura poussé, par exemple, du pépin, terminal, voilà. Mais on va y mettre des bouts de branches qui auront été pris sur le pommier qui nous intéresse.
Tout à fait. Alors, je reviens juste sur le pourquoi il faut greffer et non semer. C'est parce que vous avez un arbre. Mais cet arbre, il va se polliniser avec un autre pommier. Donc, vous allez créer, on va créer des hybrides, quoi. Donc, il faut absolument greffer pour reproduire à l'identique les fruits de cet arbre, de cette pomme de Pouzac, quoi. Voilà. Et si on veut greffer, donc, il va falloir récupérer donc, la pousse de l'année. Donc, on appelle ça des greffons. Quoi. Donc, on va récupérer en janvier ou début février, les stocker et greffer. Donc, pour le pommier, on va le greffer donc, sur un porte-greffe, sur un support donc, qui va être résistant. Alors, souvent, si on est patient, on va greffer sur un franc. Non, ce sont des arbres qui vont vieillir, qui vont vivre au moins plus de 100 ans et qui vont commencer à produire au bout de la 5e, 6e année. On peut greffer sur aussi, c'est des porte-greffes plus modernes, du M106 par exemple. Donc, au bout de la 2e, 3e année, on commence à avoir des fruits aussi. Quoi. Mais ces arbres dureront moins longtemps puisque ce sont des porte-greffes donc, qui ont été créés, qui sont hybridés donc, et ils vont durer une trentaine d'années. Quoi. Les fruits vont être un peu plus gros, un peu plus parfumés. L'arbre va vivre moins longtemps, mais il produit beaucoup plus rapidement et plus en quantité sur une période courte. Quoi. Alors qu'autrefois, on avait des vergers donc, de plein vent, ce qu'on appelait ça, dans le plein vent, greffés sur des arbres francs, des porte-greffes francs, pardon, et les arbres dont, certes, ils mettaient un certain temps pour mettre à production, mais ils vivaient plus de 100 ans. Quoi. Si vous voulez créer un verger, en fait, vous allez, si vous mettez la même variété, elle va produire, donc, bon, elle va arriver à maturité au mois d'octobre. Si c'est une pomme qui se conserve pas, ben, vous allez la garder jusqu'au mois de décembre, maximum, quoi, et après, elle va pourrir naturellement. Quoi. Donc tout l'intérêt, c'est de, dans un verger, de mettre plusieurs variétés, dont des variétés actives, dites d'été, donc, qui ne se conservent pas du tout, qu'il faut manger dans les 15 jours.
Qui vont arriver fin septembre, elle ?
Voilà, mi-août, début septembre. Il y a des variétés de mi-saison, donc, voilà, donc, c'est la plus grande partie. Hein, donc, on va commencer à les consommer de octobre jusqu'en décembre, voire janvier. Et après, on a des pommes de garde. Donc, et ici, sur les Pyrénées, on en a pas mal. Donc, c'est des pommes donc, qu'on va pas manger à l'automne, mais qu'on va commencer à manger là, maintenant, au mois de janvier, février. Il y a même des variétés qu'on garde jusqu'au mois de juin, quoi. Donc, il y a une pomme qui s'appelle La Paix, il y a une pomme qui s'appelle Belle de Mai sur le plateau de la Maison. Eh bien, elle porte bien son nom, hein. Elle est savoureuse donc, à cette période-là, au mois de mai. Et le moment optimal donc, où elle va dégager tous ses arômes et son côté gustatif, eh bien, ça va être donc, voilà, avril, mai. Il y a une pomme qui s'appelle Amasoukade ou Masoukade qui est dans le Comminges. C'est une petite pomme donc, qui ne paye pas de mine, mais vous pouvez la manger jusqu'au mois de juin. Quoi.
C'est ça, en fait c'est passionnant, c'est-à-dire qu'il faut à la fois, c'est intéressant de perpétuer ces pommes, mais il y a quand même un mode d'emploi qu'on n'a peut-être pas forcément sur l'étiquette, sur la façon après de le manger. Là on rentre dans le domaine de l'ethnologie, du savoir ancestral, c'est un savoir immatériel.
C'est ça qui est intéressant, c'est On a des variétés, mais elles ont leur qualité, elles ont leur conservation, elles ont leur diversité en goût. Quoi.
Leur mode d'emploi.
Je vais vous blesser un petit peu, donc je vais vous fâcher un petit peu. Donc vous allez tous au supermarché, je veux bien. Hein, voilà, vous ne pouvez pas avoir tous un jardin, vous ne pouvez pas tous avoir un verger comme j'ai, certes. Donc, mais ces pommes, donc, je suis désolé de vous le dire, donc, elles sont toutes insipides, elles ont toutes le même goût, elles ont tous le même jus, la même couleur, donc rouge souvent, quoi. Elles sont conservées dans des chambres froides. Donc, vous allez prendre une pomme donc, moderne, vous allez la mettre dans dans une chambre froide et vous allez prendre une de mes pommes anciennes donc, qu'on va pas mettre dans une chambre froide, quoi. Eh bien, la pomme qui sera cette pomme moderne, donc, qui va être dans cette chambre froide, donc, qui va être conservée avec un certain produit, voilà, je dirais le nom, quoi.
Elle va... Oui, on met des produits pour pas qu'elle pourrisse pas et celui-là, on le mange.
Bien sûr, parce qu'elle va se conserver 8 mois en frigo et on peut commercialiser des pommes toute l'année, pendant 8 mois. Mais sauf 8 mois après, quand vous la sortez du frigo, elle n'a plus aucune valeur nutritive. Par contre, ma pomme qui se conserve au mois de juin, donc, que vous avez ramassée au mois d'octobre, donc, certes, ben, elle n'a pas un joli aspect, elle est un peu fripée, quoi, mais elle a gardé toutes ses valeurs nutritives, quoi, et elle a son parfum encore. Quoi.
Il y a un autre arbre qui t'intéresse, donc c'est la châtaigne. Mais il y a la châtaigne qui, elle, le châtaignier, lui, qui est attaqué par le cynips, qui est toute petite bestiole qui décime nos châtaigneraies françaises. Et qu'est-ce que tu as envie de dire rapidement aux gens de la merveille de cet arbre qu'est le châtaignier et la châtaigne et son fruit?
Alors le châtaignier, c'est un arbre qui me tient à cœur. Bon, déjà pour le greffer, c'est pas évident. Il se trouve que je faisais partie d'une association dans les Hautes-Pyrénées qui s'appelle le renouveau de la châtaigne dans les Hautes-Pyrénées. Il y a une inventaire qui a été fait dans cette étude, on a une châtaigne qui est très grosse, qui s'appelle Belle. On lui a donné un nom, quoi. C'est un arbre qui s'est hybridé tout à fait naturellement dans la forêt, quoi. Secteur de Visquer, si certains connaissent, quoi. Sauf que j'en ai pas greffé parce que, certes, elle est très belle, elle est très grosse, quoi, mais elle a un goût très amer, quoi. Donc, pour la consommation, elle n'est pas très intéressante, quoi.
Sauf pour les ports noirs.
Exactement. Exactement. Donc on a quand même une diversité sur tout le piment pyrénéen au niveau de la châtaigne. Non, le problème c'est que depuis les années 2008, on a eu un gros souci. Une guêpe qui est arrivée d'Asie, qui s'appelle le cynipe, alors pas décimé les arbres, non, mais il a bloqué toute la production, quoi. Quand ce cynipe est arrivé, beaucoup, beaucoup de variétés pyrénéennes, mais entre aussi en France, en Europe et dans le monde, ben on passe pratiquement à zéro production, quoi. Voilà. C'est une guêpe qui pond son œuf dans la fleur, enfin le bourgeon terminal, c'est-à-dire dans ce bourgeon terminal, ben il y a la future fleur qui va donner la bogue, qui va donner la châtaigne, quoi. Donc, s'il y a ce cynipe qui pond cette guêpe qui pond dans ces bourgeons terminaux, c'est zéro production dans beaucoup de variétés, quoi.
Donc si je peux être chez vous, vous avez une châtaignerie que vous voyez un peu dépérir gentiment, mais sûrement, renseignez-vous, il existe des lâchers parce qu'il y a une solution contre le cynipse. On peut lâcher en fait son prédateur naturel en Chine qui pose pas de soucis normalement.
Il y a un prédateur donc à ce cynipe, c'est le taurimus, non? Alors on a le taurimus du chêne qui existe naturellement ici, et l'association pour nous dont Midi-Pyrénées s'appelle le Fredon sur Toulouse, donc on fait des études et donc ont élevé des taurimus qui sont les prédateurs de ce cynipe, et depuis 2008 il y a des lâchers réguliers, quoi. Dans ma châtaignerie il y a eu des lâchers et au fur et à mesure des années on se rend compte que c'est un peu comme le frelon asiatique, c'est pareil. On arrive à contenir ce cynipe, mais on ne va pas l'éradiquer totalement, quoi. Il faut faire avec, quoi. Alors sur les 50 variétés qu'on a étudiées sur les Hautes-Pyrénées, moi j'en ai une, elle s'appelle Noir Veran, elle n'est pas attaquée par le cynipe, quoi. Voilà.
Et elle est bonne.
Ben oui, elle est bonne. Alors, le seul inconvénient qu'elle a, cette châtaigne, non, c'est qu'elle a le tan, c'est-à-dire la peau qui est sous l'écorce, donc qui est assez pénétrante. Elle est adhérente, quoi. Et moi, je l'utilise uniquement, je les ramasse toujours. Elles ont un calibre qui est tout à fait correct. Je les ramasse parce que donc elles sont sucrées. Et pour faire de la crème de marron, elles sont excellentes, quoi.
Mais en fait, quand on les mange, quand on les a fait bouillir, elles sont difficiles à décortiquer, si j'ai bien compris.
Voilà, voilà. Alors, à côté de ça, j'ai greffé d'autres variétés. On a une variété dans les Baronnies, entre Bagnères et Lannemezan. Il y a un exemplaire qui nous reste encore. C'est une variété qui s'appelle Castéran. Certes, c'est un petit marron. Alors, la différence entre châtaigne, donc la châtaigne, donc elle va avoir plusieurs amandes, donc elle va être cloisonnée, alors que le marron, ce qu'on va appeler châtaigne, mais sous la dénomination de marron, hein, il n'y a qu'une seule amande, ben on a cette castérane, donc, qui est un petit marron qui s'épluche très facilement et qui est ce qui est aussi, quoi.
Un petit mot de la fin, si les gens veulent se renseigner, des adresses, des sites internet ou un ouvrage de référence que tu voudrais leur donner.
Je donne pas forcément mon nom parce que sinon je vais être sollicité. Donc, mon verger s'appelle Le Verger de Pyrénées. Vous allez le trouver nulle part parce que c'est pas référencé, quoi. Mais sinon, vous avez l'association pour la châtaigne et l'association Le Renouveau de la Châtaigne dans les Hautes-Pyrénées. Vous allez trouver son site très facilement.
Pour le greffage.
Pour le greffage, ici, il y a le club dans les Pyrénées-Atlantiques à Assat. Donc, c'est un verger où ils conservent des légumes anciens.
Et au niveau national?
Au niveau national, vous avez les croqueurs de pommes, non ? Aussi, donc une association nationale. Dans tout département, il y a une association aussi au niveau pommes, fruits en général, pour du greffage, pour acheter des variétés anciennes, des greffons, voire des porte-greffes, voilà. Moi, je commence à prendre de l'âge, mais j'ai toujours un intérêt et je vais greffer dans deux pépinières, donc je peux les nommer. Donc. Elles sont dans les Hautes-Pyrénées. Dans le secteur de l'Annemezan, l'une à Thiouze dans les Baronnies, ça s'appelle le verger fruitier des Baronnies, et le jardin des Confluences, dont à Bizou, c'est pas troulé non plus, quoi. Voilà.
Merci Serge, et bah, écoutez, moi j'adore parce que vraiment c'est le printemps, c'est le moment de planter, et c'est intéressant de se tourner vers des achats intelligents et de comprendre tout l'enjeu des plantes anciennes, de savoir greffer pour les multiplier, de se faire plaisir.